Tu regardes la sorcière, n'est-ce pas ? Me demanda-t-il. Et je savais qu'il ne pouvait rien connaître de mon aventure, et il ne parlait donc ainsi que pour avoir saisi, avec sa terrible pénétration des passions humaines, l'intensité de mon regard. « Non, m'esquivais-je, je ne la regarde pas. En somme, je la regarde peut-être. Mais ça n'est pas une sorcière, nous n'en savons rien, elle est peut-être innocente. »« Tu la regardes parce qu'elle est belle. »« Elle est belle, n'est-ce pas ? » me demanda-t-il avec extraordinaire chaleur en m'empoignant le bras. « Si tu la regardes parce qu'elle est belle, et que tu en es troublé, mais je sais que tu es troublé car le péché dont on la soupçonne augmente pour toi son charme, si tu la regardes et éprouves du désir, pour cela même c'est une sorcière. Prends garde, mon fils, la beauté du corps se limite à la peau. Si les hommes voyaient ce qui gît sous la peau, ainsi qu'il advient avec le lynx de Béotie, ils auraient un frisson d'horreur à la vision de la femme. » Toute cette grâce compose de mucosité et de sang, d'humeur et de bile. Si l'on songe à ce qui se cache dans ses narines, dans sa gorge et dans son ventre, on ne trouvera que ta dordure. Et s'il te répugne de toucher la morve ou la merde du bout des doigts, comment donc pourrions-nous désirer étreindre le sac même qui contient l'excrément ? J'eus un haut-le-cœur. Je ne voulais plus écouter ses paroles. Mon maître vint à mon secours, qui avait entendu. Il s'approcha brusquement d'Hubertin, lui saisit le bras qu'il détacha du mien. « Suffit comme ça, Hubertin, dit-il. D'ici peu, cette fille passera à la torture et puis sur le bûcher. Elle deviendra exactement comme tu le dis si bien, glaire, sang, humeur et bile. Mais ce seront nos semblables qui arracheront sous sa peau ce que le Seigneur a voulu protéger et orner par cette peau. Et du point de vue de la matière première, tu n'es pas toi meilleur qu'elle. Laisse ce garçon tranquille. » Hubertin se troubla. « J'ai peut-être péché, murmura-t-il, sans nul doute j'ai péché, mais que peut faire d'autre un pécheur ?» Tout se rentrait désormais en commentant l'événement. Guillaume s'entretint un peu avec Michel et les autres minorites, qui lui demandaient ses impressions.
Bernard a maintenant dans la poche un argument, fut-il équivoque. Dans l'abbaye rôdent des nécromants qui font les mêmes choses qui furent faites contre le pape en Avignon. Ce n'est certes pas une preuve, et en premier ressort, elle ne peut être utilisée pour perturber la rencontre de demain. Il va tâcher cette nuit d'arracher à ce malheureux quelque autre renseignement, dont j'en suis sûr, il ne se servira pas aussitôt demain matin. Il le gardera en réserve. Cela lui sera utile plus tard pour brouiller le déroulement des discussions, si jamais elle prenait une tournure qui ne lui plaît pas.
Pourrait-il lui faire dire quelque chose qu'il rétorquerait contre nous ? Guillaume resta dubitatif.
« Espérons que non, » dit-il.
Je me rendis compte que si Salvatore disait à Bernard ce qu'il nous avait dit à nous sur son passé, sur celui du scélérier, et s'il faisait la moindre allusion au rapport entre deux et Hubertin, pour éphémère qu'il fût, une situation fort embarrassante se serait créée. « Dans tous les cas, attendons les événements, » dit Guillaume avec sérénité. « D'autre part, Michel, tout a déjà été décidé à l'avance. Mais toi, tu veux essayer ?»
« Je le veux, » dit Michel, « et le Seigneur me viendra en aide, que saint François intercède pour nous tous. »«
Amen, » répondirent-ils en chœur.
« Mais ce n'est pas dit, » fut l'irrévérent commentaire de Guillaume. « Saint François pourrait se trouver quelque part, on ne sait où, en attendant le jugement, sans voir le Seigneur en face. »«
Maudit soit l'hérétique Jean, » entendis-je grommeler messère Jérôme, tandis que chacun s'en retournait dormir. « Si à présent il nous enlève aussi l'assistance des saints, où finirons-nous, pauvres pécheurs ?